On demande à Bernard Masrade s'il veut bien nous raconter quelque chose sur Chausson et pendant le temps que vous souhaitez, si c'est nécessaire. Merci en tout cas d'avoir bien voulu venir sur la proposition de Frédéric.
Bonjour. Je vous remercie de me donner la parole, mais bon, mon témoignage sera plus un témoignage de la façon dont une entreprise devient finalement captive, tout en gardant l'image d'une grande autonomie. Alors, l'entreprise s'appelle la Société des usines Chausson, on appelle ça Chausson. Je vous situe simplement son historique pour que vous ayez un peu une toile de fond. La société a été créée en 1907, voyez, par des industriels, les frères Chausson, qui travaillaient sur le refroidissement des moteurs thermiques, donc les moteurs pour les voitures, pour les avions, au moment de la guerre de 14 en particulier. Et à partir de là, comme ils ont eu des brevets, c'est eux qui ont un peu mis en place, d'ailleurs encore aujourd'hui, la plupart des véhicules automobiles sont équipés de radiateurs Chausson. Voilà. Et donc, comme ça marchait bien, ils se sont étendus et ils ont racheté des constructeurs automobiles, dont Chenard et Walker, enfin, etc. Et après la guerre, ils sont devenus un peu les spécialistes des véhicules utilitaires légers, et en particulier aussi des cars, les fameux cars Chausson des années 50, que les plus anciens doivent se souvenir, qui ont été ensuite rachetés par Saviem et Renault. Et par mésentente familiale dans la famille Chausson, les enfants Chausson ne se sont pas attendus et chacun a revendu ses parts, l'un à Renault et l'autre à Peugeot. Si bien que Renault et Peugeot sont entrés dans le capital de la société, chacun à hauteur de 49,7% du capital. Ce qui leur permettait de dire qu'ils étaient actionnaires minoritaires et qu'ils n'étaient donc pas employeurs des salariés de Chausson. Cette entreprise avait, pour faire vite, deux grands départements. Un département qu'on appelait thermique, c'est là où on faisait les radiateurs automobiles, camions, etc. Et un département automobile carrosserie où on faisait des véhicules utilitaires légers depuis le designer jusqu'à la livraison clé en main du véhicule aux constructeurs, puisqu'on réalisait des véhicules pour Renault, Peugeot, Citroën, voilà. Et donc, dans les années 80, arrive la crise de l'automobile, une crise industrielle aussi, et à partir de 82, le gouvernement Mauroy pousse à la création de grandes filières industrielles, dont une regrouperait les équipementiers autour de Valeo. Et c'est à ce moment-là que, en 88, le département thermique des usines Chausson, donc à environ 5000 salariés, passe les trois usines de Chausson thermique passent sous le contrôle de Valeo. C'est une première démantèlement. Reste 12 000 salariés autour de deux grandes usines principalement, une à Gennevilliers, l'autre à Creil, faisant chacune Gennevilliers 5000 ouvriers, Creil 4000, essentiellement des ouvriers de fabrication, un peu comme vous décriviez tout à l'heure avec Molex, c'est les gens qui rentraient dans l'usine, qui faisaient carrière et qui faisaient rentrer leurs gamins derrière, et voilà, c'est tradition, voilà. Parallèlement, dans ces mêmes années 80, les actionnaires qui étaient Renault et Peugeot se restructurent également au niveau européen, voire au niveau mondial. Renault passe des accords avec Volvo et avec DAF. Ça réussit plus ou moins, mais bon, on voit bien la tendance. c'est de trouver un partenaire qui ouvre des espaces beaucoup plus larges au niveau mondial que ce qu'est la seule entreprise Renault. Et Peugeot, de son côté, fait pareil avec Fiat. Et vous avez encore aujourd'hui la Sauvelle-Nord, par exemple, qui est le résultat d'une fusion entre Fiat et Peugeot. Et donc, pourquoi cela ? D'une part, parce que ça ouvre des marchés complémentaires. Les marchés qu'avait Fiat ne sont pas ceux qu'avait Peugeot, c'est clair, y compris au niveau mondial. Et sur les mêmes chaînes, on va faire passer, au lieu de faire 200 véhicules par jour pour Renault, 200 véhicules pour Fiat, etc., je prends plutôt Peugeot, 200 véhicules pour Peugeot et 200 véhicules pour Fiat, 200 véhicules pour Citroën, ça nous fait 600 véhicules par jour qui ont les mêmes études et qui passent sur les mêmes chaînes. Simplement, c'est le look avec la calandre, etc., plastifiée, qui change. On a l'impression que c'est deux véhicules différents. En réalité, c'est les mêmes véhicules. Donc, au lieu d'avoir 200 véhicules qui passent sur une seule chaîne, on en a 800. Voilà. De ce fait, Renault et Peugeot considèrent que Chausson a beaucoup moins d'intérêt comme constructeur pour eux, puisqu'ils ont trouvé une alternative. Le comité central de Chausson s'inquiète de cette situation et missionne un cabinet d'expertise, cabinet Syndex, même que celui de Molex, pour tenter de voir où peut aller l'entreprise Chausson dans ce contexte-là. Le cabinet se rend compte et retraduit que le nombre de véhicules fabriqués a un résultat financier qui est quasi toujours à l'équilibre. Chausson dégage un résultat qui est quasiment toujours à l'équilibre, plus ou moins les années, mais tout proche de zéro. Que les investissements sont nuls, sauf s'ils concernent une chaîne particulière. La chaîne Renault qui fabrique les Trafic peut avoir des investissements, mais ces investissements ne concernent pas l'ensemble de l'usine. Il n'y a aucun investissement qui pourrait favoriser l'autre actionnaire qui se trouvait en même temps un concurrent comme constructeur et en même temps un client de Chausson. Très bien. Ce que l'expertise dégage également, c'est que Renault et Peugeot se réservent l'exclusivité du monopole commercial. C'est-à-dire que c'est eux qui commandent un véhicule que Chausson étudie, réalise et fabrique, mais c'est le constructeur, Renault ou Peugeot, qui cherche le marché et qui ensuite a le monopole de la distribution et de la vente. Ajoutons que les actionnaires contrôlent au plus près le fonctionnement de la société Chausson. Le PDG est nommé par Renault, mais le directeur financier est nommé par Peugeot. Et à la tête de chaque usine, à l'usine de Gennevilliers, c'est un directeur qui vient de Renault, à la tête de l'usine de Creil, c'est un directeur qui vient de Peugeot. Tout semble se passer, en fait, pour nous, comité central ou organisation syndicale, tout semble se passer comme s'il y avait des accords entre les actionnaires clients qui feraient que SUC serait maintenu, que la société Chausson serait maintenue en état de survie en attendant que la mort programmée arrive. Et en tout cas, elle reste, en attendant de sa disparition, une véritable société captive. Malgré les questions du conseil d'administration qu'on apporte au conseil d'administration, malgré les droits d'alerte qu'on déclenche, les actionnaires nous font toujours remarquer qu'ils sont minoritaires et qu'ils n'ont pas à répondre à des élus d'une autre société. Forcément, ils font que 49,7%. Ils ne vont pas nous répondre alors qu'on est une entreprise complètement étrangère. C'est une caricature, quoi. Le comité central va tenter un coup de force juridique en demandant à l'organisation syndicale majoritaire de nommer un salarié comme délégué syndical central à l'unité économique de Chausson, Renault et Peugeot. Alors, bien évidemment, dès cette désignation, les trois entreprises, Renault, Peugeot, Chausson, contestent la désignation. Il n'y a pas d'unité économique et sociale entre ces trois firmes. Et pourtant, un juge considère effectivement, sur les rapports que nous présentons, sur les signes de dépendance évidente, désignation des responsables, etc., etc., qu'il y a véritablement unité économique. Et donc, c'est un peu un boom important qui casse l'image de la dépendance. Encore faut-il que Renault et Peugeot acceptent de mettre en œuvre un ensemble de dispositifs. C'est pas facile. Donc, pendant un an, on a quand même des interpellations et des questions directes auprès des PDG, mais au bout d'un an, le jugement est cassé et on retrouve à la case départ. Mais en attendant, on a pu, devant l'opinion publique, montrer la dépendance de la société. On découvre en particulier que les prix de fabrication des véhicules, et ça c'est avec le cabinet Syndex, que les prix de fabrication des véhicules sont appelés chez Chausson des prix de cession, qui sont obtenus en divisant les frais fixes de l'entreprise par le nombre de véhicules demandés par les actionnaires clients. Si on fabriquait plus que ce qui était prévu au budget, Renault et Peugeot faisaient une facture de régularisation. S'ils demandaient 200 véhicules par jour et qu'on en faisait 230, donc il y en avait plus, et bien il y avait une facture de régularisation. Par contre, si on en faisait moins, c'est Chausson qui faisait une facture pour un complément de financement, ce qui expliquait que la société était toujours proche de la ligne de flottaison vers zéro. En janvier 1993, malgré une mobilisation importante avec occupation pendant 3 semaines, Chausson licencie quelques 1200 salariés, essentiellement sur Creil. Et là, ça met en difficulté la trésorerie de la société Chausson. Les experts du comité central estiment alors que sans intervention spéciale des actionnaires en matière financière, Chausson va déposer le bilan au plus tard fin septembre. Cela est démenti par tout le monde, par les actionnaires bien sûr, par la direction locale, mais aussi par les élus politiques qui interrogent les actionnaires et le gouvernement, et même certains syndicats pensent qu'il n'y aura pas de dépôt de bilan, ce n'est pas possible qu'une entreprise de 10 000 salariés dépose le bilan. Et puisque les directions et actionnaires assurent qu'il n'y aura pas de dépôt de bilan, le syndicat majoritaire et le comité central demandent en juin 1993 que la direction donne ordre aux banques de provisionner les payes de septembre et qu'elles s'engagent par accord d'entreprise à, s'il y avait dépôt de bilan, à maintenir les instances d'information et de consultation habituelles. Vous savez, quand il y a un dépôt de bilan, enfin une mise en redressement, les organismes de consultation du personnel n'ont plus les mêmes prérogatives, hein, il n'y a plus les mêmes délais, etc. Donc on s'engage là-dessus. Et la direction, un petit peu coincée, accepte de faire cet accord. Et le 13 septembre, ce sera le dépôt de bilan. 13 septembre. Dépôt de bilan, et les payes sont normalement assurées, et les instances fonctionnent. Le CCE demande alors une enquête pour déterminer les causes de la défaillance de l'entreprise, pour bien pointer Renault et Peugeot. Dans cet objectif, une commission est mise en place par le tribunal de commerce, avec la participation bien sûr de Renault et de Peugeot, mais aussi du secrétaire du comité central, qui est nommé par le tribunal, représentant des salariés dans la procédure. Donc c'est un type de, je ne sais pas si vous connaissez les procédures pour les entreprises en difficulté, mais bon, on a la possibilité de nommer un représentant des salariés. Habituellement, c'est toujours un cadre supérieur, voire le directeur financier, ce qui fait qu'il ne sert à rien du tout, et qu'il ne sert qu'à valider les fermetures ou les liquidations. Là, pour le coup, ils avaient en face d'eux un syndicaliste. Renault et Peugeot, dans cette commission d'études, se renvoient la balle quant à la responsabilité de ce dépôt de bilan et à son financement. Renault invoque alors des engagements pris en 1991, soit 2 ans avant, par les PDG de Renault Lévy, qui s'appelait Lévy, Monsieur Lévy, et par Calvet chez Peugeot, et Renault met sur la table un ensemble de procès-verbaux, des réunions entre ces deux PDG et des engagements qui avaient été pris. Ces engagements, on n'y voit que 2 ans avant, même un peu plus, Peugeot et Renault se mettaient d'accord, un, pour fermer progressivement les sites de Chaussons, en disant également, nous ne le dirons pas aux partenaires sociaux, mais nous dirons qu'il faut passer à des vagues de licenciements pour pouvoir mieux rebondir. Donc ils mettent au point la com. C'est intéressant, ils l'écrivent. Et ensuite, donc ils annoncent même qu'une première vague de licenciements aura lieu en 93, et la deuxième en 95. Deuxièmement, ils disent qu'ils vont le cacher donc aux partenaires sociaux, mais ils se mettent d'accord aussi que pour financer ces licenciements, eh bien, on financera en vendant des terrains, etc., de la société, un peu du patrimoine, mais comme ça ne suffira certainement pas, ils pourront recourir au dépôt de bilan. Ils l'annoncent 2 ans avant. La divulgation de ces comptes rendus a fait évidemment l'effet d'une bombe, parce qu'ils le mettent dans la commission, mais moi qui suis là, je suis aussi destinataire de ces procès-verbaux. Et donc pensez bien que dès que je sors de la réunion, ben je le transmets à la presse, ce qui ne plaît pas beaucoup à Renault et Peugeot. Là, la fois d'après, ils menacent d'aller au tribunal, parce que pour divulgation de discrétion, je ne sais pas quoi, les obligations légales, j'étais tout heureux qu'ils me traînent devant un tribunal, parce que ça me permettait au moins de donner encore... Donc ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas bêtes quand même. Donc ils se sont dit, mais non, M. Massera, on vous connaît, nanana, voilà, on ne va quand même pas vous faire cette misère. Et je leur disais, mais c'est bien dommage, j'aimerais bien être miséreux, là. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, ça a donné un peu plus d'élan pour que les organisations syndicales et les salariés se mobilisent très très fortement. Et peut-être à la différence de ce qu'on avait fait en 93 avec occupation et fermeture de l'usine, on a choisi de travailler sur des opérations coup de poing massives où on partait à 5000 salariés occuper un ministère, on a occupé la bourse et on a bloqué les comptes toute une journée. Les comptes n'ont pas été... La Bourse de Paris n'a pas fonctionné. On a occupé le Conseil d'État, on a occupé différents lieux comme ça, ce qui nous permettait de ne pas trop s'épuiser de perte de salaire, mais d'avoir l'opinion publique pour nous et de pouvoir en même temps négocier des mesures au début qu'on souhaitait industrielles. Là-dessus, on se disait, si on n'a pas les mesures industrielles, on veut avoir des parachutes pour un plan social qui permette à tous les salariés d'avoir un avenir, mais de ne pas passer par la case du Pôle emploi, enfin à l'époque de la NPE. Et cette mobilisation massive a duré plusieurs années, 2 à 3 ans. Elle n'a pas permis de sauver l'outil industriel, mais de faire en sorte que les dispositifs de reclassement fonctionnent, puisque beaucoup de salariés ont été reclassés à l'intérieur des groupes, du groupe Renault, également de Peugeot, ou dans des entreprises comme les ADP, les aéroports de Paris, et donc sans que les gens passent par la NPE. Et pour les plus de 50 ans, d'avoir pour ceux de Creil un congé de conversion de plus de 8 ans, disons, qui leur permettait d'attraper ensuite des mesures d'âge qui les amenaient à 60 ou 65 ans à la liquidation de leur retraite en ayant leur point de retraite complémentaire payé d'avance. Et pour les salariés de Gennevilliers, l'usine a été maintenue en fonctionnement pour faire de l'emboutissage pour les gens qui avaient plus de 50 ans. Et en 2006, comme il n'y avait plus qu'une cinquantaine de salariés, ils sont restés une année chez eux payés et ils ont récupéré les moyennes d'âge, si bien que... L'intérêt aussi sur Gennevilliers, c'est que les salariés qui avaient moins de 50 ans pouvaient aller faire des essais à l'intérieur de Renault ou de Peugeot ou d'une autre entreprise. Et au bout de 6 mois, ils pouvaient soit de leur plein gré revenir à Gennevilliers et reprendre leur poste, soit repartir pour un autre essai quelque part. Voilà, je crois que pour vous situer un peu, c'est très rapide et à coup de hache, je m'en excuse, mais...
Oui,
voilà.
C'était très très clair. Merci, merci beaucoup. Quelques questions de précision factuelle ? Non ? Et donc finalement, combien de salariés, là, dans la dernière charrette, je dirais, 5 000 ou 10 000 du coup ?
Alors il y a eu, sur les 5... Ben, dans la dernière charrette, ça a été 5 000 quoi, hein, qui ont été reclassés. Et le site de Creil, sur le plan industriel, on a obtenu qu'il soit reconverti et il y a eu 1500, 1200 à 1500 emplois qui ont été recréés, mais pas du tout dans le cadre de l'automobile, avec plutôt une genre de pépinière d'entreprise, avec des entreprises très d'Ouest, quoi, hein, ils font des bidons pour la peinture, mais aussi... Des sociétés beaucoup plus qualifiées en lien avec les universités de technologie de Compiègne, et en particulier sur des molécules pour les produits pharmaceutiques.
D'accord. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Oui,
une petite question. Est-ce que vous avez repéré des divergences entre les stratégies des deux actionnaires à un moment donné ? Est-ce qu'il y a eu des dissensions entre eux et sur quoi elles ont porté ?
Alors, elles ont porté sur le désengagement de. Peugeot a beaucoup plus rapidement que Renault, n'a plus eu besoin de la société Chausson et donc n'avait plus de fabrication à donner. On faisait les pick-up, les véhicules pick-up, vous savez, 504, 404, enfin voilà, les pick-up Peugeot. Donc il n'y en avait plus à fabriquer, donc Peugeot s'est retiré et pour lui, il était prêt à laisser l'euro symbolique, de laisser ses parts à Peugeot, à Renault, en demandant à Renault de gérer la faim et les plans sociaux. Renault était beaucoup plus handicapé parce qu'à Gennevilliers, on fabriquait le Trafic qui faisait à peu près 25% du marché du véhicule utilitaire en France, de tous les marchés utilitaires. Donc c'était un gros morceau dont il ne pouvait pas se débarrasser comme ça. Hein. Et donc nous, on a fait pression davantage sur Renault, bien qu'en faisant aussi pression sur Peugeot, pour qu'ils payent, qu'ils contribuent au plan social, ce que nous avons partiellement obtenu, parce que par ailleurs, ils ont eu des exemptions de charges, etc. Voilà, ils n'ont pas payé un ensemble de dettes fiscales qu'ils auraient dû payer, ben, forcément. Voilà.
Oui, Nicolas.
Vous avez dû suivre ça après, c'est très proche de l'histoire de Oliez en fait.
Pardon ?
C'est très proche de l'histoire qui s'est passée chez Oliez.
Oui, enfin, oui.
C'est à peu près la même chose, on avait
fait ça. C'est à peu près la même période.
C'est des breaks à peu près la même période.
Oui.
Et vous avez vu des différences avec ce qui s'est passé là-bas pour autant ce que...
Enfin, je sais pas bien, on n'a pas bien étudié les affaires, je ne peux pas vous répondre là-dessus indirectement. Hein, en tout cas, pour nous, on sait que... Ce que nous avons obtenu a aussi servi d'abord ça a été une espèce de cas d'école, puisque pour une fois, on arrivait à démontrer, on avait des documents, comment des actionnaires pouvaient prévoir, bien avant les échéances, prévoir la disparition d'une société qui pourtant juridiquement était complètement autonome, avait l'apparence d'une... voilà, alors que, qu'elle était complètement étranglée, quoi. Et ça, je crois que ça a été un élément de un fait d'école, hein, parce qu'on n'a pas, en général, on n'a pas ce... voilà, c'est, on pense toujours que c'est le conseil d'administration qui pilote les affaires. Non, non, il y a quelque part un espèce de conseil d'administration qui ne dit pas son nom. Hein, c'était la réunion Calvé-Lévy, voilà. Ça, ça, ça n'a pas de, de nom. Et c'est pourtant là, là qu'est le pouvoir.
Hein. Parce que sur Oliès, il y avait un conseil d'administration.
Oui.
Avec une famille qui détenait l'entreprise.
Oui, c'est ça.
Parce que
c'est...
la décision était prise effectivement là aussi ailleurs.
Bien sûr, tout à fait.
Chez PS1.
Oui.
Merci, merci beaucoup.